Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bonjour et bienvenue dans votre podcast mensuel sur Disneyland Paris qui vous est proposé par Daily Disneyland. Nous sommes le 30 mai 2018 et vous écoutez le troisième épisode de DLP Podcast. Et je suis très heureux de vous retrouver en cette fin de mois pour ce troisième épisode de DLP Podcast, un épisode qui va être marqué par le changement, car comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, DLP Podcast est désormais un podcast Daily Disneyland. Qu'est-ce que ça va changer pour nous ? Absolument rien. Le podcast va rester le même, on va avoir la même structure. Cependant, on va bénéficier d'une plus grande visibilité puisqu'une page dédiée au podcast est désormais disponible, et si elle n'est pas disponible pour le moment, elle va bientôt l'être, sur le site dailydisneyland.com. Je vous laisserai donc aller la visiter, vous allez trouver plein d'informations sur le podcast et où vous pouvez l'écouter. En parlant de Daily Disneyland, je vous invite également à rejoindre le Instagram de Daily Disneyland, sur lequel de nombreuses photos sont régulièrement postées en ce moment, et ce sont tout simplement mes photos, donc je vous conseille d'aller y faire un tour si vous en avez envie. Petite parenthèse pour vous dire que ce podcast risque encore une fois, comme tous les autres, d'être assez long, mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter d'une traite. En effet, je vous rappelle que je mets en description de chaque podcast un timing qui vous permettra de switcher de la partie des news en vrac au dossier du mois pour pouvoir l'écouter tout simplement en deux parties si vous n'aimez pas l'écouter d'une traite. Et on va passer au sommaire. On va retrouver les news en vrac, comme tous les mois. Donc, dans ces news en vrac, on va parler de la Disney Fan Days. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire. On va parler du jazz à Disneyland Paris. Et on va faire un petit récap de la soirée de lancement du programme Inside Ears. Mais qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire ? Eh bien, vous allez bientôt le comprendre. Car pas mal de news ont été annoncées. Et on va essayer de toutes les traiter de manière assez rapide, mais efficace. Et ensuite, on passera à notre dossier du mois et on va accueillir le premier invité de l'histoire de DLP Podcast qui n'est rien d'autre qu'Éparcurien du podcast Rien que d'y penser. J'y fais souvent référence et bien voilà, on va accueillir un de leurs membres et ensemble, on va tranquillement se poser pour faire un top 5 de nos attractions préférées sur le parc. Mais avant ça, on passe aux news en vrac, c'est parti! Et on commence avec la Fan Days inaugurale partie. Décidément, on ne pourra pas passer un podcast sans parler de cette Fan Days. Et pourquoi j'en parle ? Car le programme officiel a enfin été dévoilé. Donc je vous rappelle que la soirée aura lieu le 2 juin 2018 de 20h à 2h du matin, désolé, au parc Walt Disney Studios. Donc quel est ce programme ? Je vais vous l'énumérer. Pour ce qui est des animations et spectacles, vous retrouverez à 20h à la place des stars la cérémonie d'ouverture. Ensuite, vous retrouverez « Oh ma chère Hortensia » au Hollywood Boulevard à 20h30, 21h30, 23h et minuit. Donc un spectacle sur le Hollywood Boulevard, hein, je me demande ce que ça va donner. Avec Hortensia qui apparaîtra d'ailleurs pour la première fois dans un parc Disney, on attend de voir ça même si je n'y serai pas. Ensuite, vous retrouverez, alors là désolé si je me trompe sur les noms, la mission de Dr. Jamba et Pikli Stitch. Je ne connais pas bien les noms de Stitch. Et ça se passera à Stitch Live. C'est assez étonnant, un nouveau spectacle à Stitch Live pour cette soirée. Et donc ça aura lieu à 20h45 et 22h45. Ensuite, Max en concert à vous rendre Dingo, qui se déroulera sur la place des stars et sur la scène qui se trouve devant la Tour de la Terreur, qui est d'ailleurs en train d'être modifiée pour cette Fan Days avec des couleurs un peu, j'ai envie de dire, électro-disco. Donc ils sont complètement en train de remanier cette scène, de la redécorer et de rajouter une petite extension à la scène pour pouvoir accueillir ce show-là justement qui aura lieu à 22h30, 23h30 et 1h15 du matin. Ensuite, on retrouvera le challenge d'Oswald en chanson qui aura lieu au Animagic Theater de 20h30 à 23h30, désolé, et à 18h30 également. Et ça sera tout simplement un concours de chant qui aura un gagnant à la fin. Voilà, ensuite on va avoir deux parades. Danse avec la bande à Picsou en parade, qui aura lieu sur la route de la parade des Walt Disney Studios à 21h, 22h et 18h30. Enfin, route de la parade, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu une belle parade au Walt Disney Studios, mais bon. Et ensuite, vous aurez le revoir surprise sur la route de la parade, encore une fois, à la fermeture du parc, c'est-à-dire à 2h du matin, j'imagine. Et en plus de ces animations spéciales et de cette parade, enfin de ces parades, puisqu'il y a le revoir surprise, il y aura une conférence gratuite, qui sera incluse dans le billet de base de la Fan Days et dont vous n'aurez pas besoin de payer en plus. Et ça sera une conférence qui aura lieu à 22h, 23h et minuit à Art of Animation. Et ça sera une rencontre avec Andreas Deja, je ne sais pas comment ça se dit, désolé pour la prononciation, une légende Disney. Alors vous allez me dire qui c'est, qui est cet Andreas? Eh bien c'est très simple, c'est un animateur de chez Disney qui a notamment travaillé sur le personnage de Gaston dans La Belle et la Bête, de Jafar dans Aladdin, de Scar dans Le Roi Lion, de Hercule dans Hercule, de Lilo dans Lilo et Stitch. Donc c'est quand même pas rien. Il a également aidé à l'animation de Mickey Mouse dans Le Prince et le Pauvre en 1990. Donc c'est vraiment quelqu'un d'assez important chez Disney. C'est une Disney Legend. Donc c'est vraiment sympa qu'il propose quand même une conférence pour ceux qui ont le simple billet de base et qui n'ont pas à acheter une conférence en plus. Ils en ont au moins déjà une. Mais on a également les conférences payantes dont on vous a déjà parlé. Donc vous avez un panel de Phi et ses amis qui aura également lieu à Art of Disney Animation à 20h30. Donc c'est un panel tout simplement qui tourne autour de Phi et ses amis. Et vous avez la conférence qui m'intéresse le plus et à laquelle j'aurais bien aimé participer, même si je n'irai pas à cette soirée, excusez-moi. C'est Aperçu avec Walt Disney Imagineering en présence de Tom Fitzgerald, chargé du portefeuille créatif de Walt Disney Imagineering. Ça se passe à 22h au Animagic Theater. Et alors moi, je crois beaucoup en cette conférence pour qu'on ait d'éventuelles annonces, peut-être des détails à propos de notre plan d'expansion des Walt Disney Studios. Personnellement, j'y crois assez fort. J'ai l'impression que ils sont en train de cerner de plus en plus ce qu'attendent les fans. Et donc, je les vois mal nous faire une énième conférence sur l'histoire du parc, sur comment Disneyland Paris a été créé, etc. Je vois plus vraiment une conférence un peu à la D23 avec quelques petites annonces par-ci, par-là. Et ça, au moins, ça serait vraiment quelque chose qui plairait aux fans et qui serait vraiment top. Donc on va suivre ça avec attention sur Twitter et on en reparlera dans un des prochains podcasts. Donc voilà pour ce qui est du programme de la Disney Fan Days. Et on nous a également annoncé le programme des personnages présents à cette Fan Days. Mais je ne m'étalerai pas dessus, ce serait beaucoup trop long. Sachez simplement qu'on nous a promis une ribambelle de personnages à cette soirée. Et ça sera le cas. Il y en aura tout au long de la soirée pour tous les goûts, des personnages classiques, des personnages plus récents. Il y aura un peu de tout. Il y aura même des personnages qui auront un décor de fond. On pense notamment aux personnages des nouveaux héros qui risquent d'avoir tout simplement un décor de fond. Et avec qui vous pourrez prendre des photos. Et on en sait un peu plus sur deux packages en particulier. Notamment le package l'aventure Disney Licieuse, donc package dédié à la nourriture comme vous pouvez vous en douter, qui vous proposera une rencontre exclusive avec Tommaso Arrigoni, désolé si je prononce mal le nom encore une fois, qui est tout simplement chef étoilé Michelin et qui rendra hommage à notre plus grande star lors d'un atelier exclusif. Alors on pense de suite à Mickey Mouse, imaginons un gâteau en rapport avec Mickey Mouse ou un plat en rapport avec Mickey. Nous verrons bien, on n'en sait pas plus pour ce qui est de cette information. Et pour ceux qui ont pris le package Les Amoureux du Parc, vous aurez rendez-vous avec l'imagineur Disney Laurent Cahuela, qu'on retrouve souvent dans pas mal de vidéos de la chaîne de Disneyland Paris, et qui vous a concocté un délicieux tour dans les coulisses de Ratatouille et l'aventure totalement toquée de Rémi. Et ça, je trouve ça tout simplement super. Pouvoir faire un tour privé d'une attraction, des backstage d'une attraction avec un Imagineur Disney, c'est une super bonne idée. mais malheureusement, il faut payer un package qui coûte quand même très 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 cher pour pouvoir accéder à cette animation-là, j'ai envie de vous dire. Ils auraient plus simplement l'intégrer au package de base de la Disney Fan Days et faire des tours toutes les heures ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, je maintiens le fait que cette soirée reste quand même globalement assez chère, même si on nous promet pas mal d'animations, comme vous avez pu le voir. Et pour enfin en finir avec cette Disney Fan Days, on a appris quelques nouveautés qui arriveront pour les détenteurs de passes annuelles. Tout d'abord, il y aura une conférence exclusive pour les passes annuelles Infinity avec Catherine Powell, donc qui est la PDG d'Euro Disney SAS. Et donc, il y aura lieu au cours de la soirée Fan Days. On ne sait pas encore où elle aura lieu durant la soirée, mais elle ne sera disponible que si vous êtes membre de passes annuelles Infinity. Je tiens à le préciser. Donc ça, c'est plutôt bien. Je me demande qu'est-ce que va contenir cette conférence, tout simplement. Mais ça fait quand même une soirée riche en conférences. Et c'est vraiment sympa pour les détenteurs de passes annuelles Infinity. Ensuite, le jour d'avant la soirée, il y aura simplement un dîner de gala au restaurant Manhattan qui vous sera proposé. Donc, restaurant qui se trouve dans l'hôtel New York, je vous le rappelle. Et donc, il aura lieu le vendredi 1er juin. En compagnie des créateurs de l'événement, dont Marc Huffman, qui est donc directeur créatif de Disneyland Paris et qui a notamment travaillé sur la saison des super-héros Marvel, on en reparlera plus tard. Et également en compagnie d'Emmanuel Lenormand, le directeur artistique de Disneyland Paris, qui a notamment participé à la création de la Disney Stars on Parade. Voilà pour ce qui est de ce dîner gala au restaurant Manhattan, qui sera donc disponible au prix de 127,50€ pour les passes annuelles Infinity et de 150€ pour les passes annuelles Magic Plus. Alors c'est quand même assez cher pour un repas. Alors certes, c'est un repas en bonne compagnie, j'ai envie de vous dire, mais bon, 150€ en plus de la soirée pour un dîner le jour d'avant, c'est quand même, je trouve, un peu cher. À voir ce qu'ils proposent comme repas tout simplement ce qui sera proposé durant ce dîner. Voilà pour ce qui est des passes Infinity et des passes Magic Plus. On en a fini avec la Disney Fan Days. Enfin, on devrait normalement ne plus en parler si ce n'est pour faire un petit récapitulatif de la soirée le mois prochain, même si je n'y étais pas. On passe de suite à la prochaine info, un peu plus jazzy. Continuer avec les soirées qui sont depuis quelques temps de plus en plus présentes à Disneyland Paris, en voici une nouvelle qui aura lieu le samedi 29 septembre 2018, notez bien sur vos agendas, au Walt Disney Studios et qui se nomme Disney Loves Jazz. Bon, apparemment, ils ne sont pas encore prêts à faire de soirée au Disneyland Park, hein, à part pour la soirée Halloween et la soirée du Nouvel An. Alors c'est bien, ça permet de dynamiser les Walt Disney Studios, mais on n'a pas cette magie qu'on aurait en faisant une soirée dans le Disneyland Park, surtout une soirée jazz. Je pense que ça irait parfaitement bien dans le Disneyland Park, mais enfin bon. Vous allez avoir deux solutions pour accéder à cette soirée. Donc vous avez le choix entre deux billets. Un ticket standard à 49€ qui vous donnera accès à la soirée de 20h à 1h du matin, donc c'est quand même pas mal. Et avec ce billet à 49€, donc qui est le billet standard, vous aurez droit à accéder aux animations jazz de rue dans le parc ou à Disney Studios, aux rencontres avec les personnages Disney qui seront des personnages en rapport avec l'univers jazzy, donc on pense notamment à la princesse à la grenouille et aux Aristochats. Vous aurez également accès à la dernière soirée du rendez-vous gourmand qui reviendra cette année, et qui reviendra pour un mois de plus que l'année dernière, mais on en reparle un peu plus tard. Mais vous aurez également le droit à accéder à certaines attractions ouvertes pendant la soirée. Mais il existe donc également un autre ticket qui lui n'est pas à 49€, mais à 69€. C'est un billet premium et qui vous donnera lui accès à tout ce que je viens de vous citer, mais qui, contrairement au ticket standard, vous permettra d'assister au Jazz Loves Disney en concert qui aura lieu sur la scène du Motor Action Stunt Show Spectacular. Et on va donc retrouver un nombre assez conséquent d'artistes durant ce concert qui, je vous le rappelle, n'est disponible que pour les détenteurs du ticket premium, qui est donc à 69€. On va notamment retrouver Hugh Coltman, ou encore Ben l'Oncle Soul, et j'en passe, hein, il y en aura bien d'autres, mais je ne vais pas tous vous les citer. Et donc ça se passera à Moteur Action, et ça risque d'être vraiment sympathique. Donc ça, c'est une soirée qui me branche bien, contrairement à Electroland, qui me branche, elle, pas du tout. Celle-ci, j'aimerais bien y assister, mais ça risque d'être quasi impossible, car elle a lieu au mois de septembre, donc c'est pas forcément facile au niveau de l'organisation, mais c'est une super idée. On a bien vu que leur stratégie du moment était d'étendre un peu les soirées, de faire pas mal de soirées, et c'est quelque chose de bien, je trouve. A noter que des réductions pour les Pass Infinity et Magic Plus seront disponibles. Par contre, vous ne pourrez pas réserver vos billets sur le site si vous détendez un pass annuel et que vous voulez la réduction. Il faudra téléphoner. Pour ce qui est des billets normaux, vous pouvez les acheter sur le site de Disneyland Paris sans problème. Et on passe de suite à la prochaine actualité. Enfin, aux prochaines actualités. Car comme vous allez désormais le voir, la suite de ces news en vrac va être un peu spéciale, puisque les news qui vont suivre ont été dévoilées lors de la soirée de lancement du nouveau Social Fan Club Insiders, qui a eu lieu le vendredi 18 mai dernier. Alors avant toute chose, vous allez me demander, qu'est-ce que c'est qu'Insiders ? Eh bien c'est très simple. Insiders est un programme dédié aux dirigeants de sites web, de réseaux sociaux, d'influenceurs en rapport avec Disneyland Paris, et il s'agit d'un programme qui officialise la relation qu'a Disneyland Paris depuis un petit moment quand même avec ses sites pour que l'information circule mieux et que les sites puissent mieux informer le public et communiquer sur le resort. Donc je n'étais pas personnellement à cette soirée, mais pas mal de sites ont été invités, dont Daily Disneyland, qui est donc devenu officiellement ambassadeur digital de Disneyland Paris avec plein d'autres sites, podcasts, pages Twitter. Donc au final, étant donné que DLP Podcast est désormais un podcast Daily Disneyland, est-ce qu'on peut dire que nous sommes ambassadeurs digitaux de Disneyland Paris ? Peut-être, éventuellement, à voir. En tout cas, c'est donc durant cette soirée que Daniel Delcourt, le vice-président de Disneyland Paris, et Marc Huffman, le directeur créatif de Disneyland Paris, nous ont présenté tout un tas de news sur le resort et nous allons les décortiquer de ce pas. Et donc c'est parti pour la grosse partie de ces news en vrac. On va revenir sur chacune des infos de cette soirée, une par une, assez rapidement, pour éviter que le podcast dure tout simplement 2 heures. Et je vais donner mon avis à chaque fois, comme d'habitude, sur chaque news. Donc la grosse news, j'ai envie de dire, de cette soirée, c'est l'arrivée d'une nouvelle attraction slash spectacle. Je sais pas trop comment la qualifier, on va dire attraction. Je dirais plus attraction, oui, car il n'y a pas vraiment de performeur durant le show, il n'y en a même pas du tout. C'est l'arrivée de Mickey et son orchestre Philharmagique au Discoveryland Theater en octobre 2018, donc c'est dans très bientôt au final. Je vous avais parlé dans le tout premier podcast de la fermeture du Discoveryland Theater en ne sachant pas trop ce qu'ils allaient faire à l'intérieur, et bien maintenant on le sait, on va voir l'arrivée de Philharmagique. Alors Philharmagique, c'est quoi ? C'est un show avec une histoire assez ressemblante, excusez-moi, à celle d'Animagique au final. C'est l'histoire tout simplement de Mickey, qui est un chef d'orchestre et qui va dire à Donald de ne surtout pas toucher son chapeau magique. Sauf que Donald va bien évidemment prendre le chapeau magique de Mickey et être embarqué dans de nombreuses aventures disneyennes en 4D. En 4D en effet, car comme vous le savez, le Discoveryland Theater est déjà équipé de cette technologie-là. On a déjà une salle qui peut tout simplement bouger et s'incliner. Et on a déjà le système 3D qui est présent dans la salle. Donc au final, il n'y a pas grand-chose à faire à part rajouter un animatronics de Donald. Car en effet, à la fin du show, on retrouve un animatronics de Donald dans le fond de la salle. Je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisse la surprise. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce nouveau show en 4D qui reprend simplement... C'est un show assez classique, ça reprend les chansons basiques de Disney, donc du Roi Lion, de la Belle et la Bête, d'Aladin, de la Petite Sirène. Ça va encore faire un peu niveau chanson répétitif avec Mickey le magicien, mais niveau spectacle et niveau attraction, ça n'a rien à voir. Là, c'est de la 4D, on n'a pas de performeur. Alors, c'est une bonne nouvelle, c'est une attraction assez culte des parcs Disney et qui a son succès dans les parcs américains et hongkongais. Mais le problème, c'est qu'elle est assez vieille. Elle date quand même de 2003 Et même à l'époque, d'après Disney Maniac, donc un des abonnés qu'on peut retrouver sur Twitter, eh bien l'animation est un peu dépassée. Et d'après ce que j'ai vu sur YouTube, c'est vrai que ça fait très ancien quand même, et ils auraient pu updater simplement l'animation 3D qui fait assez cheap et assez vieillotte. Mais je vais pas m'en plaindre, c'est une attraction qui va enfin exploiter le Discoveryland Theater comme il se doit. Même si c'est assez étrange d'avoir une attraction en rapport avec Mickey et ses amis au final au fond de Discoveryland. Jusqu'à présent, Captain EO et Chéri, j'ai rétréci le public, c'était logique, mais alors là, vraiment niveau cohérence, on n'y est pas du tout. Mais je vais pas non plus me plaindre, comme je vous l'ai dit, peut-être que ça sera remplacé à l'avenir. Mais c'est une très bonne nouvelle, une nouvelle attraction à tester dès octobre 2018. Ensuite, on retrouve une annonce assez inattendue quand même, puisque le Mark Twain, célèbre deuxième bateau de Disneyland Paris, sera de retour dès 2020 sur les eaux de Frontierland. En effet, il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas que le Molly Brown qui était sur les eaux de River of the Far West, mais il y avait également le Mark Twain, qui est un deuxième bateau qu'on a vu depuis pas mal de temps maintenant, complètement abandonné et délabré dans son entrepôt. Eh bien, ce n'était pas forcément une réhabilitation urgente, mais ils ont décidé de quand même le réhabiliter. Il sera de retour donc en 2020, et c'est vraiment une super bonne nouvelle. On va pouvoir enfin retester ce magnifique bateau, et on va se retrouver donc normalement avec deux bateaux dans Frontierland qui tournent simultanément, et ça va rendre quelque chose d'assez bien et d'assez impressionnant quand même. On va avoir pas mal de mouvements, et j'ai hâte qu'il soit de retour en 2020. Ensuite, on va parler de Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, qui sera en réhabilitation de fin juillet, début août à décembre prochain. Alors pourquoi il va être en réhabilitation? Vous allez me dire, c'est une attraction qui est quand même assez neuve et qui date de 2014. Eh bien, c'est très simple. Il faut savoir que l'attraction fonctionne avec un système GPS, comme vous devez certainement le savoir, puisqu'il n'y a pas de rail dans cette attraction. Eh bien, le sol de l'attraction s'affaisse. Ce qui fait que le signal GPS est parfois perdu par les véhicules, ce qui crée simplement un 101, donc une panne dans l'attraction. Et ils vont donc devoir refaire tout le sol de l'attraction. Et je trouve ça assez dommage que de nouvelles attractions partent aussi vite en charpie, j'ai envie de vous dire, et soient aussi vite dégradées. C'était déjà le cas avec la Tour de la Terreur, qui a tout simplement fait l'objet d'un procès que Disney a gagné contre l'entreprise qui a construit tout simplement une partie de la tour, mais on en reparlera un peu plus tard. Donc c'est assez dommage, mais c'est nécessaire, et ça aura lieu de début août à début décembre prochain. Voilà pour ce qui est de Ratatouille. On va passer à Big Thunder Mountain, qui est une attraction à polémique, puisque comme vous le savez, avant sa réhabilitation, il y avait des pannes à peu près tous les jours. C'était assez insupportable. Et le problème est qu'après la réhabilitation, eh bien, on a encore eu ces pannes qui ont persisté, persisté et persisté. Les effets du dernier lift, donc de la dernière montée qu'on nous avait garantie comme étant explosive, ce ne sont quasiment jamais présents. Il n'y a quasiment jamais de fumée. Daniel Delcourt a été très très clair et très honnête avec nous, et ça fait plaisir, car il faut savoir tout simplement que il y a une fuite sous le lac, donc dans le tuyau qui permet de faire passer le gaz qui permet de fournir la fumée, tout simplement, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, il y a une fuite à cet endroit-là. Il faudrait tout simplement vider le lac actuellement si on veut remplacer cette fuite. Donc, les équipes de la Walt Disney Imagineering et de Disneyland sont en train de travailler pour essayer de trouver une solution pour réparer ce problème et faire revenir la fumée sans vider le lac. Et s'ils doivent encore vider le lac, ça serait quand même assez dramatique parce qu'il faudrait fermer l'attraction et on se retrouverait avec un Frontierland à la Palisadeland comme on l'a déjà eu. Mais c'est pas tout. Il faut également savoir que les trains, après cette réhabilitation, ont reçu de nouvelles roues en nylon, et ça, ce n'est pas une rumeur, c'est vrai. Et elles ont reçu de nouvelles roues en nylon, et depuis, les trains vont plus vite que ce qu'ils allaient avant. Et donc, ce qui fait que des pannes sont créées et que le temps d'embarquement est très court à chaque fois. C'est-à-dire que si vous dépassez 2 minutes de temps d'embarquement, l'attraction se stoppe et tombe de suite en panne avec un système simplement de sécurité pour éviter que les trains rentrent en collision. Alors ça, on le savait déjà avant la réhabilitation, qu'il fallait seulement 2 minutes pour embarquer dans l'attraction, à peu près environ. Mais donc voilà, ils sont également en train de travailler pour réguler la vitesse des trains. Et après, pour ce qui est du temps d'embarcation, ça, on peut malheureusement pas y faire grand-chose, à part éventuellement faire tourner moins de trains sur la montagne, et non pas les 5 trains comme ils le font parfois. Voilà pour ce qui est de Big Thunder Mountain, donc c'est en train d'être réglé, ils y réfléchissent, en tout cas, ils ont conscience des problèmes actuels, et ça, c'est déjà une bonne chose. Ils avouent eux-mêmes que ce n'est pas parfait, mais ils y travaillent. Et on passe à la suite avec Mickey le magicien qui va possiblement arriver à Walt Disney World. Et ça, c'est quand même assez top. Et ça montre bien que nos shows à nous ont une grande qualité. On avait déjà eu la forêt de l'enchantement qui était incroyable. Et ce Mickey et, ma et le magicien qui est vraiment un super show. Et que Walt Disney World nous envie. Et c'est vraiment une bonne nouvelle, je trouve. Certains diront, oh non, il faut qu'on garde l'exclusivité. Mais au contraire, moi, je trouve ça assez bien que nos shows s'exportent aux États-Unis. Ça montre bien qu'on produit quelque chose de qualité. Et il faudrait un jour que je fasse un dossier sur les shows parce que Disneyland Paris et les shows, c'est une grande histoire d'amour quand même. On a toujours été assez fort dans ce domaine-là. Voilà. Je vous parlais il y a quelques instants de la Tour de la Terreur. Eh bien, sachez que celle-ci va bientôt entièrement être recouverte par les échafaudages et plus précisément par une bâche blanche qui sera ensuite remplacée par une bâche thématisée comme on peut le voir à Casey Corner ou encore à Phantom Manor actuellement. Mais il faut leur laisser le temps de calculer et de faire quelques photos pour pouvoir installer cette bâche. Mais pour le moment, les échafaudages sont en train d'être montés à l'arrière de la tour et la façade devrait être disponible pour la soirée de la Fan Days et celle d'Electroland, bien évidemment. Voilà pour ce qui est de la réhabilitation de la Tour de la Terreur. On va rapidement passer sur la saison des super-héros Marvel qui, comme je vous le rappelle, arrive dès le 10 juin prochain. Et le studio Theater qui accueillera l'Alliance des super-héros continue sa réhabilitation et des touches de rouge métallique sont en train d'être ajoutées au poteau. Et je trouve que c'est du plus bel effet. Ça nous rappelle bien l'univers Marvel, bien évidemment. Le rouge, hein, c'est la couleur de Marvel, je vous le rappelle. Et ensuite, on a également appris qu'une nouvelle scène va être installée avec un écran LED entre le Studio Theater et Stitch Live. Et cette scène accueillera le show des Gardiens de la Galaxie dont on a parlé dans le dernier podcast. Elle est en train d'être construite actuellement. Voilà pour ce qui est de la saison des super-héros Marvel. On en reparlera un peu plus tard pour ce qui est de la nourriture. Et on va de suite passer à une autre nouvelle saison. Enfin, si on peut appeler ça une saison. C'est la saison tout simplement des 90 ans de Mickey qui aura lieu d'octobre à janvier prochain. Donc ça va être quand même une super longue saison. Alors, on n'en sait pas énormément. On sait simplement qu'il y aura des produits un peu exclusifs pour chaque land et qu'il y aura des gâteaux géants, de faux gâteaux géants qui feront office de photolocation dans chaque land. On sait simplement qu'il y aura des produits exclusifs en rapport avec Mickey, bien évidemment, pour ses 90 ans durant tous ces longs mois de cette nouvelle saison, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, on va retrouver ça durant cette saison pour fêter les 90 ans de Mickey. Et pour rester dans le thème des saisons, on va parler de la prochaine saison Halloween 2018 qui risque d'être assez prometteuse. Tout d'abord parce qu'on va avoir le retour de la cavalcade et ça c'est une super bonne nouvelle. Rappelez-vous, elle était absente lors du dernier Halloween. On avait le droit au Tricycle Gang qui était tout simplement mais horrible. On avait un recyclage des tricycles de la célébration du 12 avril. C'était pas très 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 bien avec un recyclage d'une chanson de Tokyo Disneyland. On avait également la Skeleton Party de Dingo dans Frontierland. Avec une espèce de camionnette vraiment pas très belle, avec un haut-parleur qui diffusait du son de manière très inégale. Mais là, ça y est, la cavalcade est de retour, la très belle cavalcade d'Halloween qu'on connaît depuis maintenant quelques années. Et elle sera de retour avec un char en plus, un char sur lequel se situera Mickey. Et tenez-vous bien, ce char sera inspiré par Phantom Manor. Ce sera une espèce de réplique de Phantom Manor avec trois moments clés qui se situeront simplement sur ce char. Donc on verra bien ce qu'ils veulent dire par là, mais apparemment il risque d'y avoir pas mal d'animations sur ce char, il risque d'être assez technologique, donc on verra bien ce que ça donne. Mais personnellement j'ai hyper hâte de le découvrir, un char sur Phantom Manor, c'est tout simplement ce dont on rêvait pour Halloween. Et alors pourquoi cette saison risque également d'être bien ? Eh bien elle risque d'être bien car je vous rappelle que les décorations du 25e anniversaire ne seront plus là. Donc on aura peut-être droit à un retour des décorations d'Halloween sur Main Street, donc des fantômes, ou alors peut-être de nouvelles décorations, sans oublier celles de Frontierland qui seront sans doute de retour, donc les squelettes de Coco. Voilà pour ce qui est de la saison Halloween. Mais malheureusement, on a appris via le site de Disneyland Paris que Phantom Manor ne serait pas de retour avant fin octobre. Et ça, je trouve que ça la fout quand même un peu mal d'avoir une saison Halloween entière sans Phantom Manor. Nous verrons bien, peut-être qu'ils prendront de l'avance. En tout cas, on en sait un peu plus sur la réhabilitation de Phantom Manor. Et elle devrait être assez semblable à celle de Pirates des Caraïbes dans l'esprit. En effet, toutes les lumières et l'éclairage de l'attraction vont être remplacés par un éclairage LED et qui sera revu et revisité comme ça a été fait pour Pirates des Caraïbes. L'entièreté des animatronics seront tout simplement rénovés et reprogrammés, j'ai envie de dire. Ils seront donc beaucoup plus fluides comme ça a été fait encore une fois pour Pirates des Caraïbes. On retrouvera également de nouveaux effets, ils nous en disent pas plus, et on nous promet un éclaircissement de l'histoire, et ça c'est quand même assez étrange et intrigant. On a notamment donc Tom Fitzgerald qui nous a dit nous avons découvert de nouveaux indices derrière l'histoire de Phantom Manor. Voilà, ça c'est ce qu'il nous a dit officiellement dans la vidéo qui a été publiée sur la chaîne YouTube de Disneyland Paris. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Et bien ça veut tout simplement dire qu'ils vont certainement, comme ils l'ont fait pour Pirates des Caraïbes, un peu éclaircir l'histoire, ben, comme c'est dit, et la rendre un peu plus lisible. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Nous verrons. Ce qui fait le charme aussi de Phantom Manor, et on en reparlera certainement avec Éparcurien après, c'est le fait que sa storyline soit à la fois claire et floue. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments, et c'est à nous un peu d'imaginer l'histoire. Donc est-ce qu'ils vont vraiment nous imposer l'histoire, ou est-ce qu'on va avoir quelques simples petits détails qui seront un peu plus clairs? Et bien ça, on aura la réponse tout simplement en octobre. Donc voilà pour ce qui est de Phantom Manor, de nouveaux effets. On a notamment vu des gens peindre la scène, la dernière scène de l'attraction, qui est celle du village de Thunder Mesa, qui est passé tout simplement dans le monde des fantômes, si je vous resitue un peu dans l'attraction. Eh bien, on voit des gens peindre avec une peinture qui ressemble beaucoup à la peinture utilisée pour les Dark Rides de style Blanche-Neige, Peter Pan. Et donc, je pense qu'on va avoir un peu cet effet-là de peinture au noir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une peinture un peu fluorescente qui donne un aspect assez spécial et qui a été également utilisée sur l'animatronics de Barbossa dans la réhabilitation de Pirates des Caraïbes. Et donc ça pourrait vraiment donner un aspect assez fantomatique au village et assez neuf. On verra bien si j'ai raison. En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat de cette réhabilitation. Et en parlant de Phantom Manor, sachez qu'un livre va être créé pour l'occasion et sera en vente au mois d'octobre. Un livre donc sur l'histoire de Phantom Manor sans doute et de cette réhabilitation. Tout comme le livre qui avait été envoyé aux différents sites et influenceurs pour les 50 ans de Pirates des Caraïbes, l'attraction. Et qui sera lui également en vente à partir de cet été pour tout le monde alors qu'il n'était avant pas disponible. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Deux petites dernières informations à propos de Phantom Manor. Sachez que dès juin, des photographes essayeront de vous prendre en photo avec des fantômes pas loin de Phantom Manor. Donc c'est sympa, ça apporte un peu d'animation pendant que la réhabilitation est en cours. Et en parlant de photolocation, il y en aura une qui sera créée à l'ouverture de l'attraction et qui sera elle fixe et permanente. On ne sait pas encore ce qu'il y aura à l'intérieur. Est-ce que ce sera également un système de photos avec les fantômes comme ça existe à Walt Disney World? Est-ce qu'il y aura les personnages de l'attraction, donc Henry Ravenswood par exemple, ou Mélanie Ravenswood? Car je tiens à dire qu'à Walt Disney World, ils vont proposer des photo avec la Rouquine. Donc la Rouquine, si vous voyez, c'est ce célèbre personnage de l'attraction Pirates des Caraïbes qui a fait polémique par son changement, car elle est passée de esclave à femme forte avec un fusil dans la réhabilitation de Pirates des Caraïbes de cet été. Voilà, donc je me demande bien ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir ça. Et je pense que durant la saison de Noël, il y a des possibilités pour que Jack Skellington fasse son apparition dans cette nouvelle photolocation. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on en saura plus durant la soirée de la Disney Fan Days. Et allez, c'est parti, on reparle de la Fan Days. Et oui, on en reparle, car il faut savoir que durant le panel payant, en plus dédié à la Walt Disney Imagineering, eh bien, Tom Fitzgerald vient de nous apprendre et nous a promis qu'il nous dévoilerait plus de détails sur la réhabilitation de Phantom Manor. Donc ça confirme bien l'hypothèse qu'on sera plutôt sur un panel qui parlera des news plutôt que l'histoire du parc, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc attendez-vous à ce que ce soit un sujet central de cette conférence. Donc on se donne rendez-vous fin juin pour en apprendre un peu plus sur cette réhabilitation. Et un petit mot très rapide sur la saison de Noël. Comme je vous l'avais dit dans le podcast précédent, Mickey et le Big Band de Noël sera de retour, et avec une nouvelle scène apparemment qui se passerait en parallèle sur la place des Stars au Walt Disney Studio. C'est un peu confus, mais on en saura plus à Noël. En tout cas, c'est sympa, ils développent ce spectacle. Il n'est pas sûr que le show soit de retour au Videopolis, il sera peut-être présent au Studio Theater, puisque le show de la saison Marvel sera temporaire. Donc nous verrons bien. En tout cas, l'anniversaire de Mickey se fera bien ressentir durant le show, puisqu'on nous prévoit cette grosse surprise en parallèle qui se déroulera sur la place des Stars. Enfin, c'est quand même un peu confus, comme je vous l'ai dit. Nous verrons bien. Et on va de suite passer aux annonces qui ont été faites durant cette soirée Inside Ears en rapport avec la nourriture. Effectivement, pas mal d'annonces, pas mal d'infos à propos de la nourriture à Disneyland Paris, que ce soit au niveau des fast-food, des services à table ou des saisons. Tout ça est mené notamment par un nouveau directeur pour la restauration rapide de Disneyland Paris qui est arrivé en vue d'une prochaine refonte de la stratégie et de l'offre. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on devrait avoir de nouveaux produits bien spécifiques et thématisés suivant les saisons. Et ça arrive notamment dès cet été avec la saison des super-héros Marvel, où on proposera de nombreux produits en rapport avec les super-héros et thématisés sur ce thème-là, exclusif à Disneyland Paris, ou qui existe déjà, notamment à Disneyland à Anaheim. Donc on va par exemple retrouver le bras de Thanos qui fait office de gobelet géant, ça c'est pour l'exemple, ou encore des petits gâteaux thématisés sur Groot. Donc voilà, plein de produits qui collent aux saisons. On nous promet une refonte totale des fast-food avec vraiment un aspect plus poussé de la thématisation. Vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire à ce niveau-là, et j'espère qu'on aura enfin des fast-food qui seront au même niveau que les fast-food présents dans les autres parcs Disney dans le monde, donc à Walt Disney World ou à Disneyland en Californie. Donc ça c'est pour ce qui est des fast-food. Et en parlant des fast-food, le colonel Attis va fermer ses portes a priori en 2019. Alors pourquoi le colonel Attis va fermer ses portes, vous allez me demander. Eh bien, ils n'ont pas voulu nous le dire, mais apparemment, le restaurant va complètement changer, complètement être rethématisé, et une surprise nous attendrait derrière le restaurant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, c'est un peu le mystère. De suite, vous savez ce que je vais vous dire. On pense à Indiana Jones Adventure, la grosse rumeur du moment. En effet, ça parle beaucoup. Alors là, je passe dans l'onglet rumeurs, hein, donc ne me dites pas que j'ai annoncé Indiana Jones Adventure. Des rumeurs tournent comme quoi Indiana Jones Adventure arriverait en face d'Indiana Jones et le Temple du Péril en même temps qu'il arriverait à Walt Disney World à Animal Kingdom pour remplacer l'attraction de dinosaures là-bas. C'est une rumeur qui est présente depuis l'ouverture du parc, donc il faut se méfier, mais là ça commence quand même à devenir assez cohérent. Ils vont fermer le colonel Attis, donc un fast-food qui se trouve au milieu d'Adventureland, et ils ne veulent pas nous dire pourquoi. Donc c'est le mystère, nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. Alors, est-ce qu'ils vont le transformer en un buffet à volonté? Est-ce que ça va devenir un service à table ou est-ce que ça va rester un fast-food? Ça, c'est un peu le suspense, en sachant qu'à la base, ce restaurant était l'Explorer's Club et c'était un restaurant service à table et non pas un restaurant fast-food. Donc voilà pour ce qui est du Colonel Atis. Pour ce qui est du Pizza Planet, qui est depuis pas mal de temps fermé, eh bien, il est définitivement fermé, il ne reviendra pas. Il va être remplacé par une tente de la COP 21 qui accueillera des conférences en attendant que la réhabilitation du New York, de l'hôtel New York se fasse, car c'est là-bas que se déroulaient pas mal de conférences. Voilà, donc le Pizza Planet c'est fini et honnêtement ça me manquera pas spécialement. J'y suis allé manger une fois quand j'étais petit et j'ai vraiment pas aimé. Ça fait vraiment très cantine comme restaurant. Donc je vois pas pourquoi les fans ont autant de nostalgie pour ce restaurant, mais je trouvais que ça faisait vraiment assez cantine. On avait une grande aire de jeu, ça c'était sympa pour les enfants. La qualité au niveau de la nourriture, c'était assez exécrable à mon goût. Voilà pour ce qui est du Pizza Planet. Ensuite, pour ce qui est des restaurants, eh bien on nous promet également pour ce qui est des services à table des cartes plus adaptés à leur lieu, comme c'est le cas avec le Captain Jack ou le Waltz, et donc ils vont un peu développer ça. Voilà pour ce qui est de la restauration globalement. Mais n'oublions pas le rendez-vous gourmand qui a eu lieu l'année dernière sur la place de Rémy, je vous le rappelle, c'était tous ces petits chalets un peu inspirés du festival Food and Wine à Epcot à Walt Disney World, qui vous permettaient de déguster un peu les plats traditionnels de chaque région de France. Eh bien l'événement s'agrandit puisqu'il sera désormais présent du 27 juillet au 29 septembre inclus. Donc ça fait un mois de plus pour pouvoir assister à cet événement-là. Et il s'étend également de par ces stands, car on aura les Antilles, l'Italie, l'Espagne et la Belgique qui viendront se rajouter au stand qui était déjà présent l'année dernière. Donc un festival, si on peut appeler ça comme ça, qui s'agrandit un peu au niveau européen. Ça c'est pour le retour du rendez-vous gourmand. Et la dernière news pour ce qui est de la nourriture, eh ben, c'est le Starbucks. Vous savez qu'il y a pas mal de rumeurs qui parlaient d'un Starbucks qui arriverait sur Main Street, comme c'est le cas à Walt Disney World. D'ailleurs, là-bas, le Starbucks est à la place du Cable Car Shop. Je ne sais pas si vous voyez où ça se situe sur notre Main Street. Mais en tout cas, c'est à cet endroit-là qu'est présent le Starbucks à Walt Disney World. Le Cable Car Bake Shop. Désolé, j'ai oublié un mot. Et donc, il n'arrivera pas à Disneyland Paris, ça n'arrivera pas, il n'y aura pas de Starbucks sur Main Street, et j'ai envie de vous dire, heureusement, voir l'arrivée d'une grande enseigne comme ça extérieure au sein de Main Street, je trouve ça un peu limite, limite. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et on passe de suite au digital à Disneyland Paris. Pour ce qui est du digital à Disneyland Paris, eh bien on en a déjà un peu parlé dans le podcast précédent et ça se confirme puisque la Wi-Fi va arriver en grande pompe dans les deux parcs de Disneyland Paris à partir de la mi-2019 environ. Et alors qu'est-ce que ça va permettre? Eh bien ça va notamment permettre de pouvoir accueillir un nouveau système de réservation des fast-food qui sera en test à partir de cet été au restaurant en coulisses au Walt Disney Studios. Donc alors on ne sait pas trop encore comment ça va se passer, mais normalement on devrait pouvoir réserver sur notre téléphone notre repas au fast-food et le récupérer directement au comptoir en ayant déjà payé depuis votre téléphone ou des bornes qui seront peut-être installées à cet endroit-là. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, ça permettra de fluidifier et d'éviter la queue éventuellement au fast-food qui est parfois très longue en période de forte affluence. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle. Et ce qui est aussi pas mal, c'est que ça arrive en quasi simultané avec les parcs américains. Puisque eux, ça fait vraiment pas longtemps du tout qu'ils ont ça. Et ça signifie donc bien que nous nous alignons de plus en plus avec les parcs américains dirigés eux aussi par la Walt Disney Company et qu'on se mettra de plus en plus à jour et que notre destination va vraiment devenir au fur et à mesure un must, j'ai envie de dire, comme le sont les parcs américains. En tout cas, c'est bien parti, comme on le voit avec toutes ces news. Mais le digital, c'est aussi le Magic Band. Eh ben non, figurez-vous que non. Daniel Delcourt a parlé de pas mal de rumeurs et ça, c'était vraiment sympathique. Et il a démenti le fait que le Magic Band allait arriver à Disneyland Paris. Alors le Magic Band, c'est quoi? C'est ce système de bracelets qu'on peut retrouver à Walt Disney World et dans lequel vous pouvez retrouver toutes vos informations, donc vos billets de parc, votre entrée à votre chambre d'hôtel, votre dining plan, donc tout ce qui est la demi-pension ou la pension complète. Et tout ce genre de choses, vos fast-pass, etc. Eh bien, nous n'aurons pas un Magic Band, mais nous aurons un système bien propre à Disneyland Paris qui est le Magic Pass, dont on a déjà parlé ici et que j'ai déjà pu tester dans une version assez light. Ils arrivent à grands pas, ils sont déjà disponibles dans quelques hôtels, mais vont être vraiment déployés dès cet été si je dis pas de bêtises. Et vous pourrez donc, avec ces Magic Pass, ouvrir votre chambre d'hôtel, avoir votre plan de demi-pension dessus. Entrez dans les parcs avec, donc ce sera vos billets de parc, et retirez vos fast-pass aux bornes fast-pass avec. Donc c'est vraiment très 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 pratique. Vous pourrez également payer dans les restaurants avec si vous le souhaitez uniquement. Hein. Ça, ce n'est pas forcément obligatoire. Voilà pour ce qui est du Magic Pass. Il me semble avoir fait le tour de tout ce qui est de l'arrivée du digital à Disneyland Paris. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et on va avoir également normalement, comme je vous l'ai déjà dit, la réservation des restaurants service à table qui devrait arriver petit à petit. C'est pas encore 100% fonctionnel apparemment, mais ça arrive également à grands pas. On a bientôt fini avec cette soirée Inside Ears. Il nous reste juste quelques petites news, comme la rénovation du Disneyland Hotel qui aura lieu après celle de l'hôtel New York, qui, je vous le rappelle, sera transformé en un hôtel Marvel. Ils n'ont pas encore voulu nous dévoiler le thème de cette rénovation de l'hôtel Disneyland, mais on peut peut-être parier sur une thématisation princesse, qui sait? Nous verrons bien. C'est une très bonne nouvelle et en même temps, j'ai un peu peur car j'aimais beaucoup la thématisation Fantasia qu'il y avait actuellement au Disneyland Hotel. Donc j'espère qu'ils ne vont pas trop dénaturer l'hôtel. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils garderont ce thème victorien, je pense, et ce côté très chic et classe de l'hôtel. Ensuite, pour ce qui est du Disney Village, on en parle depuis pas mal de temps et ça va enfin arriver. En effet, une remodélisation du Disney Village est à 90% validée et donc on devrait bientôt, même très bientôt, avoir une annonce à propos d'une refonte de notre Disney Village, d'un agrandissement tout simplement. Peut-être une annonce à la Disney Fan Days, qui sait, durant la conférence Walt Disney Imagineering, étant donné qu'on aura des infos sur Phantom Manor, il est possible qu'on ait également des infos sur ce nouveau Disney Village. En tout cas, il nous a bien mentionné, Daniel Delcourt, que ce ne serait pas un Disney Spring 2.0 comme on peut retrouver à Walt Disney World, ni un Downtown Disney 2.0 comme on peut le trouver à Disneyland en Californie. Non, non, ça restera le Disney Village et les plans seront propres à Disneyland Paris. Ce ne sera pas un copier-coller. Et pour définitivement en finir avec cette soirée Inside Ears, on va retrouver pas mal de nouveaux produits à Disneyland Paris dans les mois qui vont venir, notamment une maquette de la Tour de la Terreur en verrière, comme c'est déjà le cas pour le château de la Belle au Bois Dormant, ou encore une statuette d'un Star Speeder, et pas mal de nouveaux produits comme ça qui vont arriver pour les fans et pour tout le monde. Voilà pour ce qui est de la soirée Inside Ears, c'était assez long, assez laborieux, mais on a fait le tour des news et j'espère que vous aussi, vous êtes aussi enthousiasmé que moi par l'arrivée de toutes ces nouvelles choses à Disneyland Paris. Je tiens à terminer ces news en vrac en vous disant que je n'ai pas parlé de la saison Pirates et Princesses qui se termine le 31 mai, donc le lendemain de la sortie de ce podcast. Pour moi, c'est assez compliqué de me décider sur ce que je pense à propos de cette soirée, donc je ne vous délivrerai pas de bilan ici. Sachez simplement que je n'ai pas pu l'expérimenter en vrai et qu'il est donc pour moi compliqué d'avoir vraiment un réel avis. À en juger les vidéos, je suis assez mitigé tout de même avec ce camp pirate et ses couleurs très flashy et ce show, cet unique show qui me paraît quand même un poil répétitif, bien cassé, interactif et sympathique. En fait, il aurait vraiment fallu que je le teste en vrai pour vous donner mon avis et je ne me permettrai pas de réellement le donner ici. Voilà pour ce qui est de la saison Pirates et Princesses qui se termine donc demain si vous écoutez ce podcast lors de sa sortie. On en a enfin fini avec ces news en vrac. C'était assez laborieux tout de même, excusez-moi. Il y avait pas mal d'informations et il est possible que certaines informations que j'ai énoncées ou évoquées durant ces news en vrac aient été confirmées entre l'enregistrement de ces news et la sortie du podcast. Si c'est le cas, bon ben tant mieux. Voilà, donc on va pouvoir passer au dossier du mois. Nous allons donc revenir aux bases de Skate Disneyland et allons faire un top 5 de nos attractions préférées à Disneyland Paris. Mais pour cela, je ne serai pas seul car nous allons accueillir le tout premier invité de DLP Podcast et par Kuren, bonjour.
Salut, bonjour tout le monde.
Bonjour, comment vas-tu ?
Ça va très bien, et vous ? Enfin, toi surtout.
Ah bah ça va super, hein. Donc je te laisse te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas.
Donc moi c'est Parkurien, donc fan Disney depuis très très longtemps maintenant. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à @Parkurien et puis surtout je co-anime un podcast donc Rien que d'y penser, donc pareil sur Twitter @RienQueDyPenser quand il sera de retour. Et même chose, donc on parle un peu de tout ce qui se fait Disney, tout ça. On est des fameux insiders, hein, faut le dire, parce qu'il paraît. Il y en a qui disent que ça fait vendu, mais c'est pas grave.
Et je vous le conseille fortement, hein, depuis le temps que je vous parle de Rien que d'y penser, hein, voilà, on a enfin un des membres. Et nous allons donc sans plus tarder passer à notre top 5. Alors vous allez certainement me demander quel est l'intérêt de faire un top 5, et je répondrai à cela qu'on ne va pas se contenter de dire qu'Armageddon est la meilleure attraction du parc, hein, mais nous allons débattre et essayer de pousser un peu plus loin
c'était
la réflexion.
Tram-tour ?
Ah oui, il me semble, oui, Tram Tour. La fameuse visite des bois de Marne-la-Vallée, oui, effectivement. Donc on va essayer de débattre là-dessus et j'ai envie de dire honneur à l'invité. Et Parkurien, quelle attraction as-tu positionné en cinquième position de ton classement ?
Donc moi en cinquième position, j'ai une attraction qui est un peu de la triche en fait, je vais pas te mentir.
Ah, ben moi aussi en fait, je pense qu'on va avoir un classement assez ressemblant. Hein, mais...
ouais,
à savoir qu'on connaît simplement notre top 1, mais sinon on sait rien sur nos classements.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc oui, donc bon, en cinquième position, j'ai mis Adventure Isles.
Oh, intéressant.
Donc c'est pas tout à fait une attraction, mais je l'ai mis parce que c'est ce qui me marque le plus dans le parc Disneyland au niveau de l'immersion, vraiment en tant que paysage et en tant que richesse de déplacement. T'es vraiment immergé dans un truc, c'est d'une richesse assez incroyable parce qu'il y a Adventurist, il y a tout, il y a les fameuses grottes, les cavernes, le pont suspendu, même la cabane des Robinsons qui est un petit peu partie du truc, quoi. Et enfin, le tout forme un ensemble assez incroyable où tu peux passer facilement une heure et demie là-dedans sans t'ennuyer et en explorant. Je trouve ça vraiment fou, quoi.
C'est vrai qu'on a un Adventure World quand même assez grand par rapport à ceux des autres parcs, d'après ce que j'ai pu voir. Et quand on est à l'intérieur, on est vraiment immergé et on peut facilement se perdre dans les grottes d'Adventure Isles sans problème. Et personnellement, j'ai un peu triché du coup pour ma cinquième position puisque j'ai carrément mis toutes les attractions pédestres du parc, donc bon.
Ah oui.
J'ai tout englobé, donc on retrouve par exemple le château de la Belle au Bois Dormant et sa galerie avec la tanière du dragon, le Alice Curious Labyrinthe, Legend of the Wild West, donc à l'entrée de Frontierland, Adventure Isles avec la cabane de Robinson, le passage enchanté d'Aladin, bon je l'ai inclus parce qu'il est dans les attractions pédestres, mais on va un peu passer dessus quoi. Et les mystères du Nautilus, issu du film donc 20 000 sous les mers de 1954, qui est sûrement une de mes attractions pédestres préférées du parc, étant assez fan du film et des écrits de Jules Verne. C'est assez quand même immersif, tous les détails qui ont été mis à l'intérieur.
J'ai juste un problème sur le lit.
Ouais.
Enfin, c'est très bête.
Le lit, oui, il est très petit, très petit.
Il est très petit.
Le Capitaine Nemo doit être un nain, oui.
Mais la richesse sinon ouais du Nautilus c'est vraiment top quoi, même cette impression tu vois, enfin au bout d'un moment si tu fais attention tu te rends bien compte que t'es pas dans le Nautilus qui est au milieu du bassin.
Oui, mais déjà le fait d'avoir un long couloir pour accéder au Nautilus, bon,
et puis des escaliers qui tournent,
ouais,
tout ça,
ouais.
Tu vois, enfin ça te désoriente un petit peu, qui fait que ça donne vraiment cette impression que ouais t'es allé dans le Nautilus quoi, mais ouais je trouve ça vraiment effectivement plutôt pas mal.
C'est vrai. Mais bon, Adventure Isles, c'est vraiment le summum avec les grottes, le pont suspendu, le pont, je sais pas comment dire, semi-suspendu au-dessus de l'eau qui se trouve
Oui.
en dessous du pont suspendu également.
Ouais, et puis y a tout, au niveau des grottes, ils ont rajouté plein plein d'effets lumineux, plein de petits
Ouais,
props
c'est ce que
qu'on
j'allais
sait
dire
pas trop s'ils
justement,
étaient là avant ou si on les
ouais.
voyait pas, mais ça apporte vraiment beaucoup. Tu peux t'y perdre, il y a des choses à voir, quoi, c'est ça qui est fou. Dans toutes les grottes, il y a des choses à voir. Y en a une qui est tout. C'est tout caché, et puis t'as une petite zone où tu lèves la tête et t'as un trou et tu vois l'arbre des
Ouais,
Robinsons.
il y a vraiment deux parties
Et.
différentes. La partie un peu plus pirate du côté du coup de Pirates des Caraïbes et la côté un peu plus terrestre avec les branches d'arbres qui s'infiltrent dans la grotte du côté de la cabane de Robinson, ouais.
Ah non, c'est vraiment, vraiment
Ouais.
excellent comme truc, et je pense que beaucoup de gens nous l'envieraient dans les autres parcs.
Ouais, bah notre Adventureland est beaucoup envié quand même hein, par rapport aux autres qui sont plus linéaires comme une ligne droite au final. Et il faudrait vraiment que je reteste de faire la cabane de Robinson de nuit, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, et depuis la réhabilitation, ça a l'air magnifique. Donc voilà.
Tout à fait, ouais. Puis non, puis notre différence aussi par rapport aux autres, c'est peut-être parce qu'on manque un peu d'attraction. Je pense à Jungle Cruise notamment, qui est dans la plupart des Adventureland.
Ouais, c'est vrai.
Du coup, il y a peut-être cette différence où nous, c'est plus pédestre en fait, comme land. Et
Ah bah
finalement, c'est très
on
bien.
attend avec impatience, j'ai envie de dire Indiana Jones Adventure. On lance les rumeurs là,
Ah, oh,
attention, attention.
ouf, ah oui, carrément. Oui, bon, je sais
Avec
pas si on peut aller jusque-là. De toute façon,
on
le
verra,
défaut
ouais.
majeur de Adventureland pour moi, c'est. Le fait que t'aies le Indy actuel qui est dans une impasse, je trouve que c'est un vrai problème, quoi.
Et puis qui était censé être temporaire à la base, hein, faut pas l'oublier.
Bah, il était censé être temporaire, mais ils l'ont vite pérennisé quand même
Oui,
en
oui.
refaisant un petit peu des travaux pour rendre ça plus pérenne, quoi. Mais ouais, enfin, je trouve qu'aujourd'hui ça gêne quand même parce que c'est une attraction qui est vraiment un peu presque en dehors du parc, j'ai envie de dire, tu vois, parce que.
C'est pas faux. On va pouvoir passer à la quatrième position. Et toi, quelle est ta quatrième position, non?
Alors en quatrième position, j'ai mis quelque chose qui va, je pense,
Attention.
faire sursauter pas mal de monde.
Ah.
C'est Hyperspace Mountain.
Alors là, je pourrais pas donner mon avis, je l'ai pas testé, mais je te laisse développer.
C'est. Bah, en fait, c'est un peu particulier, donc je vais développer, comme tu dis. Bon, déjà, de base, le dôme est magnifique. Là, je pense
Ouais.
que tout le monde est d'accord pour
Là,
dire
oui.
ça. Le dôme est absolument exceptionnel. Et ensuite, je vais revenir sur l'autre grosse qualité de l'attraction, qui est, selon moi, le parcours du coaster en lui-même, le lancement en canon. Et puis tout simplement le parcours du coaster qui s'arrête pas 2 secondes, quoi. Enfin, c'est vraiment une attraction très très bien fichue où tout s'enchaîne très très bien. Les inversions, les montées, les descentes, les prises de vitesse, les passages un petit peu plus calmes où tu peux voir un petit peu des éléments de décor, tout ça. Alors ça, c'est l'autre point positif majeur et je trouve que du coup ça rend cette attraction vraiment kiffante quand t'es dedans. Je pense que en tant que tel, tu vois, enfin vraiment quand t'es dedans,
Ouais.
tu ressors, t'as le sourire, quoi. Même si on va passer sur le Baki Bell-S un peu, tu vois, c'est au niveau de la thématisation. Là, effectivement, il y a un gros problème. La file d'attente, bon, déjà, elle est un peu inexistante, hein, on va pas se mentir. Enfin, c'est 3 affiches, quoi. Et puis, bien sûr, il y a le gros problème du clash terrible entre Star Wars et le dôme extérieur et l'aspect steampunk, donc.
À
Mais
voir si
ça,
ça va
c'était
rester
déjà.
après.
À mon sens, c'était déjà un problème au niveau de Mission 2. Donc, tu vois, enfin. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de ça avec Hyperspace, mais pour moi, Mission 2 avait déjà exactement le même problème. Du coup, ouais, enfin, je vois pas trop les critiques là-dessus à ce niveau-là. Après, soit, mais enfin, c'est le problème est toujours là, mais il n'a pas été empiré à mon sens. L'autre point que je voulais citer, bah, donc, c'est le parcours en lui-même. T'as les écrans, ouais, bon, c'est sûr que ça vole pas, c'est pas terrible, quoi. Enfin, c'est pas, ça casse pas 3 pattes à un canard. On est vraiment sur une succession d'écrans qui essayent de raconter une petite histoire. Bon, on y croit vite fait, hein, c'est des trucs assez rigolos. Ils disent qu'ils ont découvert un destroyer, qu'ils ont trouvé un destroyer stellaire sur Jakku. Tu arrives sur place, ils disent ah, on est attaqué. Bah non, c'est nous qui allons à la base pour. Puis en plus, tu vois même pas Jakku du tout. Tu vois, sur aucun écran, il y a Jakku. Donc ils auraient pu dire n'importe quoi. Tu vois, enfin, c'est un peu ridicule pour le ça à ce niveau. Ouais, enfin, il y a certains écrans, c'est assez moche. Puis le fait que ce soit des écrans, c'est pas génial. Tu vois, on va pas se mentir, des écrans. Puis il y a quelques effets laser aussi, mais. Dans l'ensemble, ça reste assez pauvre niveau thématisation, mais donc si je l'ai mis en quatrième position, c'est pour le côté donc positif du rail dans lui-même, l'aspect extérieur qui est excellent, parce qu'à mon sens, et aussi je vais revenir sur les trains depuis
Ouais,
qu'ils ont été refaits.
pourquoi pas. Bah, j'ai pu tester à
C'est
l'époque de Mission 2, donc j'étais encore sur les anciens trains, et j'étais de sortie là avec la tête un peu à l'envers et la voix cassée surtout, donc j'ai pas retenté l'expérience, mais...
Non mais c'est certain, enfin, c'était une attraction qui était vraiment devenue très pénible à faire. Les anciens trains, enfin, tu prenais vraiment très 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 cher. J'étais assez sceptique sur les nouveaux trains, de dire est-ce que juste en changeant les trains, alors que le problème vient des rails hein, qui s'usent et qui vibrent,
Ouais.
est-ce que ça allait vraiment résoudre tout? À titre personnel, je sais que ça dépend un peu des morphologies. À titre personnel, c'est vraiment excellent, quoi. Enfin, j'oublie complètement que le train vibre, j'oublie. Ça passe vraiment crème, quoi. Donc ouais, voilà, si je le mets en quatrième position, c'est pour la qualité du parcours, qui est selon moi un truc chez Disney où ils ont tendance à soit ils copient un parcours déjà existant dans les coasters, c'est le cas pour Rock notamment, pour Nemo et même pour Indy, qui sont trois trucs qui existent un petit peu de base et sur lesquels ils ont rajouté un peu de déco. À côté, donc, t'as ceux que Disney fait lui-même, notamment bah, notre Space Mountain, qui est, à mon sens, excellent sur ce point. J'estime qu'il y a un potentiel infini, et je prie très très fort pour qu'on finisse pour retourner sur du Jules Verne dans cette attraction, où là, ça va
Ah
devenir
oui.
génial, quoi.
On espère que vous avez laissé un petit mot sur le papier qui était présent au Insiders avec un petit Back to the Moon. Hein.
C'est fait, c'est fait, c'est
C'est
fait.
fait, c'est fait, parfait. Mais il faudrait vraiment que je la reteste alors, hein, si les trains ont vraiment changé l'expérience.
Et tous ceux qui avaient peur et qui avaient peur de se faire mal dans cette attraction, ça vaut vraiment le coup de la refaire.
Ouais.
Parce que même si on n'est pas fan de Star Wars, encore une fois, le parcours est vraiment cool. Bah, les trains. Il y a des gens qui se plaignent vraiment hein, des nouveaux harnais, qui disent que bah, ça les sert trop à certains endroits, tout ça. Mais c'est difficile à dire, ça dépend vraiment de la morphologie, quoi. Mais ouais, ça vaut le coup d'essayer quand même.
Et tu
Parce
avais
que,
pu
en
tester
tout
du
cas,
coup
tu
là?
ressors pas avec un mal de crâne, c'est certain, quoi.
Ouais. Et tu avais pu tester du coup la version de la Terre à la Lune ou?
Oui, à l'époque j'avais
Ouais.
essayé effectivement. On va pas se mentir, aujourd'hui ce serait vieillot quoi. Enfin, clairement ça avait besoin d'une mise à jour, peut-être pas aussi vite qu'elle l'a eu finalement, mais en termes d'effets, enfin les lumières noires, tout ça, au bout d'un moment, ouais, ça a vite vieilli
Ouais.
hein, finalement. Je sais pas si tu vois.
Ouais.
Pour ceux qui connaissent pas ou qui ont pas eu le courage d'essayer, en termes de rendu visuel. Ça fait un petit peu penser à ce qu'était Eurosat il y a peu à Europa Park.
Ah,
Bon, attention, hein. On était au-dessus de ça parce que t'avais plein d'effets vraiment cool, mais dans l'ensemble, tu vois, t'étais autant dans l'espace que dans un espèce de grand truc mauve, tu vois. Donc
voilà.
c'était cool, mais t'avais cet aspect un peu vieillot qui était là. À mon sens, ouais, enfin, on n'aurait pas pu garder de la Terre à la Lune comme c'était à l'époque, mais revenir à quelque chose de proche avec les technologies d'aujourd'hui, tout ça, ce serait génial.
Ouais,
Enfin, vraiment génial.
puis niveau de la
J'ai
file
eu.
d'attente aussi, ça avait l'air vraiment pas mal avec ce côté un peu plus ouvert du coup, puisqu'on pouvait voir le ride depuis la file d'attente si je dis pas de bêtises.
Tout à fait, mais là je t'avoue que mes souvenirs
Ouais,
me
ouais,
manquent un petit peu. Mais oui, c'est vrai que bah, là aujourd'hui, la file d'attente, c'est une catastrophe, quoi.
Mmh.
Enfin.
Ah
En plus,
bah
ça n'a pas de
ouais.
sens avec le thème, où tu sais, ça se veut un truc vachement
Ouais.
moderne et t'arrives, c'est des tôles, quoi.
Bah déjà à l'époque de Mission 2, c'était pas très folichon si je me
Ouais,
souviens bien,
c'est ça,
c'est
hein.
des couloirs noirs.
Ça n'a pas changé, en
On a
fait, ils ont juste
juste ce
changé les
bruit qui fait
affiches, en
un peu
gros.
peur avant l'embarquement, quoi, voilà. Si on n'est pas très friand d'attraction à sensation comme moi. Et voilà.
Ouais, non, c'est vrai que c'est assez. En plus, il faut pas être trop, trop claustro.
Ouais.
Ouais, t'as tout ce. En plus, ils ont fermé la partie qui était ouverte avant, hein, où tu voyais le freinage au niveau de
Ah, ils l'ont fermé?
l'électrostator.
Ça, je le savais
Oui,
pas,
ça a
par
été
contre.
fermé avec Hyperspace, en fait, où tu as une espèce de. T'avais une grille en bas au niveau de la taille et au-dessus, une espèce de. Bah, c'était ouvert, quoi. Là, c'est plus le cas, c'est fermé. Donc, quand t'es.
Oh.
D'ailleurs, c'est assez rigolo, puisque quand t'es dans le train, tu vois la grille en bas qui était encore là, tu vois. Donc, tu vois un petit peu les lumières de la file d'attente, tout doux. Un petit peu, hein, mais bon, c'est assez marrant. Je dis, ouais, bon.
Ok, bon ben c'est parfait alors. Alors pour ma part, en quatrième position, j'ai beaucoup hésité entre la quatrième et la troisième position, mais j'ai décidé de privilégier en troisième position l'attraction dans laquelle... Je suis le plus diverti, on va dire ça comme ça, et j'ai positionné Phantom Manor en quatrième position. Donc,
Bien sûr.
ouais. Bien sûr. Donc, alors pourquoi Phantom Manor? Bon, tout d'abord pour la storyline qui est bien évidemment très poussée et liée à Frontierland, bien qu'elle soit assez mystérieuse, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que ça laisse pas mal de part à l'interprétation, et c'est assez amusant de traîner sur les forums pour lire les différentes théories et personnes qui affirmeraient quelle est la véritable version, alors qu'en réalité il n'y a pas une véritable version de l'attraction. J'aimerais bien savoir ce que tu penses du fait qu'ils aillent éclaircir justement cette storyline. Est-ce que ça gâcherait pas un peu le mystère qui entoure l'attraction de préciser vraiment quelle est la storyline de l'attraction du coup?
Bah, déjà, à mon sens, c'est pas super clair qu'ils vont vraiment l'éclaircir. Enfin, il a parlé
Oui, c'est
de
très flou,
Fitzgerald
hein.
qui a parlé de.
C'est à travers une phrase qu'on peut essayer de...
Ouais, il a parlé de nouveaux
Oui,
indices.
voilà, c'est
Donc,
ça.
c'est assez flou, ça veut tout et rien dire. Mais oui, à mon sens, c'est pas une mauvaise chose qu'ils éclaircissent un petit peu, mais vraiment pas trop. Mais essayer de donner quelque chose d'un peu plus clair, parce que je pense qu'il y a la majorité des visiteurs vraiment comprennent pas,
Oui, bah oui, mais c'est pour
à
ça,
mon sens.
qui n'a pas vu en sortant de l'attraction un groupe de personnes un peu se moquer en quelque sorte de l'attraction parce qu'ils n'ont pas eu peur ou qu'ils croyaient que c'était un simple train fantôme, donc c'est vrai que c'est pas très clair à ce niveau-là. C'est pas une attraction qui est censée faire peur à la base, mais plutôt raconter une histoire et parfois elle est pas très bien comprise, et même entre les fans c'est un peu confus, hein, je trouve parfois.
Bah oui, bah personne n'est vraiment d'accord
Oui, voilà.
sur le sens exact de la storyline. C'est, mais comme tu dis, c'est à la fois un point positif et négatif. Mais bah je pense que ouais, il faut garder un côté mystérieux puisque ça fait partie du genre un peu
Oui.
gothique, horreur, tout ça quoi. Mais essayer d'éclaircir un petit peu pour rendre ça plus clair. Puis je pense qu'il y a l'attraction. C'est un peu pour ça que je l'ai pas mise dans mon top. Hein, je te le dis tout de suite. Elle a un aspect vieillot quoi. Elle avait
Oui,
un aspect
mais
vieillot.
c'est pour ça que je l'ai mise en quatrième position et pas en troisième position. Donc j'attends de voir ce que donne la réhab, mais on voit, ça a pris un coup de vieux quand même. Niveau de l'éclairage, c'est très très sombre, on n'y voit quasiment plus rien à certains moments. On voit les tapis au sol, enfin oui, c'est assez... C'est un peu vieilli, c'est un peu longué quand même maintenant, donc à voir ce que ça va donner avec la réhabilitation du coup.
Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, puis il y a ce côté, il y a l'audio aussi qui gêne un
Ouais.
petit peu. Enfin, Léota, si tu connais pas vraiment ce qu'elle dit, bon, nous on le connaît tous,
Ouais.
on l'a lu 18 fois, enfin, on connaît par cœur, tu vois, mais les visiteurs qui connaissent pas, encore une fois, tu rentres, tu dis, qu'est-ce qu'elle raconte, quoi? Tu peux entendre quelques mots, c'est pas ultra clair, quoi. Enfin, et pourtant, c'est elle qui dit le plus d'informations sur la storyline de l'attraction, quoi.
C'est pas faux. Par contre, gros point fort au niveau de l'audio, c'est la musique. La musique, par contre,
Ah
alors
bah
ça,
oui.
je trouve ça assez exceptionnel quand même, parce qu'on est sur une musique digne d'une des plus grandes BO de film, j'ai envie de dire, avec une montée en dramatisation. Je l'ai écouté hier soir pour être sûr de ça. Et on a vraiment une montée en puissance de la musique assez folle, je trouve. Donc
Non mais
voilà.
tout à fait, oui, avec ce thème qui
Ouais.
revient tout doucement, un
Ouais,
motif comme
ouais,
ça, et puis qui se répète tout le long. Et c'est assez génial, quoi. Et ah, effectivement, là-dessus, il n'y a rien à dire, quoi, sur la
ouais.
musique.
Rien à dire, et aussi à noter un peu l'inspiration prise, bon ça c'est un peu valable pour toutes les attractions Dark Ride, mais prise au cinéma avec les Doombuggies qui font un peu office de caméra et qui dirigent vraiment le regard finalement du, comment dire, du public, et ça je trouve ça assez bien pensé au final, vraiment de pouvoir diriger comme ça le regard du public pour vraiment nous montrer que ce qu'on désire.
C'est vrai, et je pense que c'était assez révolutionnaire à l'époque,
Ouais.
mine de rien. Tu vois, enfin, surtout les premières versions, donc les Haunted Mansion, les années 60, ça devait être assez fou, quoi, comme truc.
Bon après ça c'est présent dans toutes les attractions, hein. Si on fait Blanche-Neige, forcément si on regarde derrière, ça sera pas la même chose, hein. Mais là vraiment le fait que le wagon puisse se déplacer limite à 360 degrés, je trouve ça assez dingue.
Ah, puis tu peux pas trop regarder en arrière dans Phantom
Non,
Manor,
non, oui,
puisqu'il
c'est vrai
il
qu'on
est
est vraiment
fermé, quoi,
entouré par le véhicule, que ce soit
ton
en haut, sur les
Doombuggy.
côtés, ouais. Après aussi un point, alors ça c'est très personnel qui me fait craquer à chaque fois pour ce qui est de Phantom Manor, c'est l'odeur. Il y a une odeur particulière dans cette attraction. Je sais pas vraiment ce que c'est. C'est aussi présent dans la Tour de la Terreur, il me semble bien. Et ça à chaque fois, c'est vraiment un point que j'apprécie beaucoup. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu spécial comme point.
Je vois pas exactement de quoi tu peux préciser un petit peu.
Mais je sais pas, il y a comme une odeur un peu spéciale qui est injectée dans l'attraction dès le foyer en fait. Oui, je sais pas, il y a vraiment une odeur particulière à l'attraction. Je sais pas comment expliquer en
D'accord,
fait.
non, bah je t'avoue que j'ai jamais
Voilà.
fait vraiment très attention.
Ça, je sais pas, c'est un truc que je remarque à chaque fois dans chaque attraction qui ont une odeur un peu bien précise. L'odeur un peu de bois dans BTM aussi. L'odeur un peu du chlore dans Pirates des Caraïbes. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Voilà. Voilà pour ce qui est de notre quatrième position et je vous reprends en solo vraiment très succinctement pour annoncer cette troisième position car nous avons eu un petit problème technique lors de l'enregistrement, ce qui fait que vous ne pourrez pas entendre le début de notre débat sur la troisième position de notre classement et il s'agit en fait de Star Tours pour Épicurien et moi. Et donc dans le début de ce débat qui concerne cette attraction, nous avons parlé du fait que l'attraction s'intègre parfaitement dans l'univers de Star Wars. On a évoqué le fait que c'était vraiment la meilleure chose à faire, la meilleure storyline à développer pour une attraction Star Wars dans un parc d'attractions. Le fait que ce soit une agence de voyage qui nous amène vers les différentes planètes Star Wars. On a vraiment trouvé ça très intelligent puisque ça nous permet de nous immerger dans l'attraction et d'y croire à 100% tout du long. On a également parlé du coup du fait que cette attraction pourrait très bien s'intégrer dans un film Star Wars au final. On pourrait très bien au détour d'une rue croiser une agence Star Tours et ça fonctionnerait parfaitement bien. On a également parlé du fait que l'attraction possède depuis sa version 2 de multiples séquences. C'est un gros 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 point fort. En effet, ça nous permet de refaire l'attraction des dizaines et des dizaines de fois sans avoir les mêmes parcours, hein. On peut même la faire, je sais pas, peut-être 50 fois sans avoir une seule fois un parcours que vous n'aurez pas encore fait. Donc voilà, en termes d'immersion, on a vraiment parlé du fait que c'était assez incroyable à ce niveau-là. Et Épicurien était justement en train de nous dire qu'on peut retrouver dans un épisode de Star Wars Rebelle un Star Speeder à un moment donné dans la série. Et donc une petite référence à Star Tours. Voilà pour ce qui est de ce début de débat sur Star Tours. Je vous laisse maintenant avec la suite du débat qui reprendra de manière normale, donc avec Épicurien et moi.
Un Star Speeder de Star Tours et tu sais Rex le pilote. Donc j'ai trouvé ça assez génial, tu vois.
Ah, ça c'est sympa, faudrait que j'aille voir.
Totalement remise, accepter un peu l'attraction ancienne dans le lore de Star Wars, un petit peu, je trouve ça vraiment cool. Et ouais, ce que j'ai noté aussi, c'est que c'est une attraction dans laquelle tu te sens un peu acteur finalement. Enfin, je sais
Oui,
pas si
surtout
c'est.
depuis la version 2.
Ouais, peut-être encore plus, puisqu'il y a vraiment ce côté où tu rentres dans l'univers Star Wars, tu vas sur une planète. Et enfin voilà quoi, enfin, c'est assez incroyable je trouve. Tu te sens vraiment dans le truc et très très fort quoi. Et
Mais ça passe aussi par du coup la storyline de, enfin, en quelque sorte la storyline, le fait vraiment d'être dans une agence de voyage et de partir comme ça à travers la galaxie, c'est pas oui, c'est vraiment ce qu'il y a de plus logique à faire, je pense, du coup. Et au niveau de la file d'attente, c'est un gros point du coup que j'ai noté, un gros point fort. Vraiment, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Peu importe où on est dans la file d'attente, il y a toujours quelque chose à voir ou à entendre. Que ce soit au niveau du secteur 2 qui a un peu été refait du coup avec ce robot qui contrôle les valises, etc. Ouais, ça c'est un gros point fort de l'attraction.
Je trouve que il a peut-être des petits détails de mauvais placement ce drone, parce
Ouais,
qu'il y a
ouais.
l'écran qui est derrière, tu le vois que à un endroit très précis de la file d'attente, et c'est très dommage en fait. Et tu sais, l'écran dans lequel tu vois les
Ouais,
bagages
les
qui vont.
valises passées, ouais.
Et je trouve que c'est assez gênant à ce niveau-là, mais ouais, effectivement, au niveau de la file d'attente, enfin, il n'y a rien à dire quoi. Et c'était déjà le cas avant, encore une fois, mais c'est encore mieux maintenant. Mais avant. C'était déjà le cas. Et elle raconte en plus la storyline si tu fais très attention. Alors c'est pas facile, faut
Oui,
vraiment bien tomber.
et il y a
Mais
un moment
t'as.
donné où on a une vidéo justement qui présente les nouveaux pilotes de Star Tours, du coup. Et ça introduit un peu le fait qu'ensuite, ça sera finalement C-3PO qui va rentrer dans l'attraction et non pas le pilote qui va rentrer dans l'attraction, en fait.
D'accord, je pensais
Je sais
même
pas si
pas
ce
à
que
ça.
tu.
Je
Ah!
pensais à. Tu sais, tu as tous les écrans de. T'as des écrans avec des caméras qui te montrent un peu la zone autour de la station, enfin de
Ah
l'astroport.
oui.
Et t'en as une à un moment précis où t'as les espèces de. Je vais appeler ça des néons, mais c'est pas des néons, c'est les jeux de lumière bleu et orange dans toute la file d'attente. Ça va se mettre à un moment à tourner en rouge. En
Ouais.
rouge clignotant un peu, genre il y a une alarme. Et si tu regardes ces écrans précis, qui sont un peu des écrans de monitoring un peu de ce qui se passe autour. Tu peux voir des destroyers impériaux arriver.
Ou alors ça, pour le coup, j'avais jamais remarqué.
Ah non, mais c'est vraiment très très fin. C'était une blague d'ailleurs qu'on faisait avec Nagla Glaçon où il m'avait dit tu l'as vu et je lui disais non. Et pendant un an, il a cru que je le prenais pour un fou. Et non, mais vraiment. Et c'est vrai que c'est assez marquant quoi parce que le fait que c'est l'Empire qui vient un petit peu enquêter là sur la fameuse espionne ou espion qui se cache dans le Star Speeder est carrément introduit dans la file d'attente. Et encore une fois, c'est un détail tellement minime que tu le vois pas forcément. Et je trouve ça très très fort, quoi. Et l'autre point aussi que je voulais dire, c'est au niveau de la technologie qui paraît transparente pour le coup. Et c'est ça qui est, à mon sens, vraiment exceptionnel, c'est que tu oublies que tu es devant un écran.
Ah oui, alors là c'est sûr, hein. Surtout, je trouve depuis la dernière version sur Crait, et là on est vraiment introduit dans la mission rebelle. Enfin, je veux dire encore plus que dans les autres séquences, je trouve. Parce qu'on est vraiment impliqué à justement carrément tuer des AT-AT, etc. C'est vraiment super bien fait, je trouve.
Ce qui est un peu douteux sur le plan
Oui, bon
sur le
après,
plan logique,
on va pas
mais
chipoter.
effectivement, ouais, enfin, t'as vraiment un délire.
Ça rajoute un peu d'épique,
Ouais, c'est ça. Et t'as vraiment un délire, oui, où bah, tu oublies que t'es devant un écran, tu te sens vraiment dans une navette, et t'as pas ce même problème que dans Ratatouille, où bah tu vois l'écran et t'es un peu gêné parce que bah
Ah
ça
ouais, oui,
casse un peu le truc, quoi.
Ratatouille, ça casse énormément le truc, je trouve même. Le sol ultra voyant, je sais pas, je sais pas, ils auraient pu trouver quelque chose de mieux, je pense.
Il y a le sol
Au moins essayer de
ultra-voyant,
camoufler le sol.
les
Ouais.
transitions entre les scènes aussi. C'est un peu compliqué, quoi.
À part peut-être la scène où on passe sous le chariot qui est pour le coup bien faite, mais
Oui, effectivement.
à voir, à voir. Ensuite, on va passer à la deuxième position. Du coup, quelle est ta deuxième position? Et je suis sûr qu'on va avoir la même.
Je suis à peu près sûr qu'on va avoir la même.
On va avoir la même, c'est
C'est un
sûr.
truc de pirate, hein.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Donc, ben, j'ai un peu le même délire pour commencer. Je commence par la file d'attente, et là, c'est
Ah bah
juste
oui, c'est
incroyable, quoi.
inévitable.
Elle est moins scénarisée, bien sûr, mais qu'est-ce
Ah oui,
qu'en
mais
termes
en niveau
d'ambiance?
d'immersion, d'ambiance, oui, surtout.
C'est incroyable. Je fais jamais la tronche, en fait, quand je dois faire l'attente quand je dois attendre pour cette attraction.
La musique qui joue beaucoup aussi, on peut pas s'empêcher de. Ouais, c'est.
Absolument, ouais, t'as une ambiance musicale, même si là la musique a un petit peu changé, ou t'as un petit peu la musique des films qui revient de temps en temps de Zimmer, quoi, mais.
Oui, mais ça va, je suis pas déçu parce que dès qu'on rentre à l'intérieur, on retrouve notre bonne vieille musique.
Tout à fait, oui. Et il y a vraiment cette montée en puissance, encore une fois, où tu rentres, il fait noir, on t'habitue un
Oui.
petit peu à l'obscurité. Au fur et à mesure, tu arrives dans la
On va
gare qui est
tomber
un peu
sur des
plus
squelettes
claire.
au fur et à mesure, un peu
Ouais.
inquiétant.
Absolument. Puis tu finis
Jusqu'à
dans une
arriver au port.
qui, lui, est un peu plus éclairée pour évidemment des raisons de sécurité et de.
Ah oui.
Mais suffisamment, tu vois. Enfin, et pareil, quoi. Depuis la mise à jour, c'est juste incroyable, quoi. Enfin, le travail sur les. Ce qui est le plus fou, en fait, c'est sur les lumières et l'audio. Au bout d'un moment, tu finis par l'oublier qu'il y a eu ce travail, tu vois, parce que bah, c'est un peu induit, quoi. C'est pas un changement clair où tu vois, ah oui, c'est vrai qu'il y a Jack Sparrow maintenant, tu vois. Mais non,
C'est
t'as
vrai.
les effets de lumière qui sont là et du coup, t'as un petit peu oublié comment c'était avant. Mais un des trucs assez rigolos, c'est si tu te retournais avant, tu chopais un peu tous les projecteurs dans la tronche et ça cassait carrément la magie, quoi. C'est casser l'immersion à fond. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Tu peux te retourner comme tu veux, tu vas voir, bah, tu vas rester dans le délire à fond. Ce qui fait que tu peux te retourner pour bien observer certains animatroniques, tu peux. Certains décors. C'est une attraction qui est vraiment incroyable. Et il y a notamment cette scène qui est, je pense, la plus épique
Ouais.
de toutes. C'est celle où
La
la. Ah,
scène de
juste.
la ta juste après la première
Tout
descente.
à fait, ouais. Avec la chute, et là, quand t'as tous les effets qui marchent, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand même bien mieux qu'avant, et que tu tombes, hein, au bon moment sur
Ah
la
oui.
boucle où ils font feu à volonté, quoi. Enfin, c'est incroyable, quoi. T'es dans une immersion où tu te dis, mais faut arrêter avec Shanghai, quoi. Nous, on a tout aussi bien. Tu vois, enfin.
Et nous, on n'a pas d'écran.
Ouais, c'est ça. Et je trouve ça vraiment très, très fort à ce niveau-là.
Ah bah, j'ai envie de dire que cette attraction, c'est un peu le rêve de gosse dont tout le monde rêve depuis qu'il était petit. On passe par un lagon paradisiaque, ensuite on arrive dans une prison où on aperçoit déjà un peu la bataille au loin, on a deux descentes, ce qui est quand même ce qui rajoute un peu de fun à l'attraction. Ensuite on a le droit justement à l'attaque du galion de pirates, l'attaque du fort, ensuite on tombe sur des squelettes, enfin plus vraiment maintenant puisque c'est encore plus impressionnant avec Barbossa du coup qui a
Ouais,
été
bien sûr.
ajouté qui.
Il est excellent, hein, Barbossa. Il a une
Ah, il est
fluidité dans
excellent,
son mouvement qui est incroyable.
ouais. Le coup d'épée.
Ouais. Puis c'est bête, hein, mais je pense que si t'es tout à droite sur le bateau, bah, tu peux baisser la tête un peu instinctivement, tu vois. Ça en dit long quand même sur l'immersion du truc, quoi.
Puis même Jack Sparrow, qui je trouve est beaucoup mieux intégré que dans les autres parcs où il est vraiment, je sais pas, dans une toute petite pièce, une espèce de bibliothèque pleine d'or. Là, vraiment, il est au milieu du tas d'or. C'est assez impressionnant à voir quand même.
Mais je trouve ça assez génial. En plus, ce qui est assez rigolo, c'est que cette scène, elle rappelle pas mal le premier film Pirates des
Oui,
Caraïbes,
c'est vrai.
avec l'affrontement Barbossa-Sparrow notamment. Et bah, sur le coup, tu te dis, j'aurais presque préféré qu'il y ait l'affrontement, mais finalement, la façon dont c'est fait est très très bien aussi, où tu le vois un peu profiter de son argent avec le perroquet. Une scène assez fun, et encore une fois, enfin, l'animatronique est super fluide, c'est agréable quoi. Enfin.
Ah, c'est vraiment le poisson qui se mord la queue, par contre, là, pour le coup. Mais on va pas. Enfin, je sais pas, j'avais un peu peur, mais finalement, c'est cette réhabilitation, mais je l'ai trouvée génialissime, en fait. Enfin, même au niveau de la storyline, tout est génial, quoi.
Ouais, ça marche très très bien, enfin il n'y a pas, y a pas à dire quoi. Enfin, bien
La
au niveau
première
de.
montée, j'étais sceptique du fait qu'ils changent justement la musique traditionnelle de l'attraction, et finalement, ça passe super bien, ça
C'est
rajoute un peu
pareil.
d'angoisse, c'est.
J'étais super sceptique aussi, et je traînais les pieds un petit peu en y allant. Il y avait Nagla Glaçon qui m'avait dit non, mais tu verras, c'est bien. Je fais ouais, mais non, je crois pas. Et puis si, finalement, ouais, c'est super bien quoi. Enfin, ça donne vraiment ce côté inquiétant, ouais, comme tu dis, avec le nuage de fumée ensuite qui vient, et la projection dessus, qui est très très cool aussi, qui est pas toujours. Un peu petite peut-être, ou je sais pas exactement. Je trouve que des fois elle se
Ouais,
déclenche un peu loin de ton bateau,
bah
mais.
ça dépend où on est placé dans le bateau, c'est vrai. Et il me semble que si on est tout devant, si je dis pas de bêtises, on est déjà passé à travers. Enfin, je sais pas, oui,
Mais ça dépend en fait, j'ai l'impression que des fois il y a des petites erreurs de timing, c'est pas toujours tout à fait pareil. Mais dans l'ensemble, enfin, ça aide encore une fois à créer de l'atmosphère et. Puis ça fait plaisir aux gens quoi, faut pas rester dans le délire de fan où tu veux voir que l'attraction de base. En plus,
Ah bah non, non, non.
l'aspect nostalgie est toujours là. Enfin, moi je sais que c'est
Oui,
une
oui,
attraction, j'ai énormément de souvenirs dessus et je sais qu'ils sont encore là et l'attraction reste comme elle était avant quoi, elle est juste
oui.
mieux finalement.
Bah oui, les ajouts, franchement, c'est que du bonus. Et pour moi, c'est un peu l'attraction familiale. Enfin, oui, c'est un peu l'attraction familiale parfaite au final. Puis le fait qu'elle dure 10 minutes aussi, c'est vraiment top. Parce que. On en a pour notre attendu, j'ai envie de dire.
Ah bah carrément oui, puisqu'en plus
Et puis c'est 10
généralement
minutes
vu.
sans aucun ennui, hein, c'est vraiment.
Ouais, c'est ça. Et puis vu le peu d'attente que tu as finalement avec son débit exceptionnel, hein, qui a plus de 4000 visiteurs je crois par heure, c'est fou quoi. Enfin.
Et quand on voit le nombre d'animatronics qu'il y a dans cette attraction, je me demande vraiment ce que va donner Battle Escape du coup du prochain land Star Wars, hein, parce que
Effectivement, ouais.
c'est assez impressionnant. Bon, ben j'ai envie de dire qu'il est temps de passer à la première position.
Oui, bah là, encore une fois, on sait ce qu'on a, hein.
Alors on sait ce qu'on a là, c'est inévitable.
Ah, et bah, on est persuadé, hein.
Là,
Moi, j'ai un
c'est.
peu peur quand même, hein, parce que je sais pas ce qu'on va devenir sans Art of Animation.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez triste quand même, hein. J'aimais beaucoup y aller pour apprendre à dessiner Mickey, mais bon. Et non, on parle bien évidemment de Big Thunder Mountain.
Ouais, tout à fait. Enfin, c'est Big Thunder, c'est tout, quoi.
C'est tout. Non, mais c'est
C'est.
tout est parfait. Même le spiel d'embarquement est parfait. Enfin, tout est parfait.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Il y a un truc. Beaucoup de mal à dire. Et ça va du détail, mais le détail le plus incroyable, ça reste quand même les bruits de train.
Oui,
Qui
ben
donnent.
justement, ça je l'ai noté dans mes petites notes là, ouais.
Qui donnent de la vie aux Landes. Et qui. Pareil, ça anime carrément la file d'attente aussi. Et t'as envie. Bon, en plus, ça donne un aspect pratique. Qui n'est pas anodin, puisque quand tu entends pas ces bruits, tu sais qu'il y a une panne pas loin,
Ah
mais
oui.
c'est.
Quand tu rentres dans Frontierland et que tu vois la petite lumière de sécurité juste en face,
Oui, tu fais.
ça fait
Oh,
un peu mal.
ça sent mauvais. Mais ouais, enfin, c'est vraiment magique, quoi, comme attraction de jour, de nuit.
Ouais. Ah
J'ai
oui, de
beaucoup de mal.
nuit.
Et quand tous les effets marchent, je parle
Ah,
même pas
quand tous les
forcément du
effets marchent.
lift C.
Ouais.
Donc de la dernière montée, sa fameuse explosion et sa fumée défaillante, mais toutes les, ne serait-ce que les effets d'eau, le splash, tout ça, ça rajoute vraiment quelque chose, quoi. Et je reviens un petit peu sur ce que je disais sur Space Mountain avec cette manie que Disney a de faire des très très bons coasters en termes de parcours quand ils s'y mettent sérieusement et qu'ils font pas juste une copie d'un autre. C'est que là, pour le coup, le parcours est génial. Il est parfaitement intégré à la montagne. Il n'y a aucun moment où tu
Ouais,
vois des
et il est
rails un
très
petit
bien
peu
dosé aussi
monter.
niveau sensation. Je trouve ça vraiment très bien dosé parce que moi qui suis pas très sensation forte, là pour le coup on a quand même des bons pics de vitesse et en même temps ça reste assez familial et fun tout du long en fait.
Ouais, c'est ça. C'est effectivement très bien dosé à ce niveau-là.
On
Et
a
puis
aussi
ouais.
le fait que l'attraction se situe sur une île, qu'on est à passer sous l'eau. Vraiment le fait qu'on soit dans le noir, dans les premiers et derniers tunnels, ça rajoute un peu de vitesse aussi.
Bah oui, c'est ça. Non, mais clairement, enfin, y a une magie sur cette attraction. Je trouve que c'est vraiment fou, quoi. Et en plus, t'as ces détails un peu bêtes, hein. Finalement, tu pourrais dire que ça sort de l'expérience, le fait d'avoir une vue sur tout le resort quand t'es là-haut, tu vois. Enfin, tu vois la tour de la Terreur, tu vois tout, quoi. Et bah non, ça gêne pas. Enfin, c'est juste cool, quoi. Et vu que le Far West est relativement, enfin Frontierland du coup, est relativement grand. T'as pas l'impression d'être dans un mini-univers et de très vite voir tout ce qu'il y a autour, quoi. T'as l'impression que ah, là-bas, il y a quelque chose au loin, tu vois. Et
Ouais, c'est vrai.
ouais, enfin, encore une fois, en plus, on sait qu'on va avoir le Mark Twain bientôt, ça va rajouter encore plus à la vie, et ça va participer aussi pour cette attraction, hein, je pense.
Je me souviens plus d'avoir connu les deux bateaux qui tournent en même temps sur le lac, mais ça doit être quand même assez.
C'était il y a pas si longtemps que ça, hein, si je me trompe pas,
Ouais.
mais
Mais il me
ouais.
semble être déjà monté sur le Mark Twain, par contre, ça, il me semble que oui, mais alors je devais être vraiment. Je devais avoir pas plus de 3 ans, mais.
Bah en fait, c'est relativement simple, puisque le parcours en bateau est assez long quand même. Donc tu vois à peu près un bateau qui a le temps d'arriver doucement au port, de se charger, se décharger, de repartir. Pendant ce temps-là, l'autre fait presque le tour complet, tu vois, mais du coup, ça fait que t'as vraiment souvent dans ton champ de vision deux bateaux où t'en vois un au loin et un plus proche. Et ouais, bah ça rend le tout vraiment plus vivant, quoi. À part quand ils se cachent un peu derrière, quand ils sont vraiment au fond du parcours du bateau. Là, t'as vraiment toujours au moins un que tu vois, quoi.
Ouais, non, mais pour revenir à Big Thunder Mountain,
Oui.
vraiment, il y a aussi cette ambiance de nuit que je trouve assez incroyable, surtout vers la fermeture de l'attraction. Il y a une espèce de microclimat dans cette attraction, je sais pas ce qui se passe, mais c'est. Je me souviens surtout à l'époque d'avant la réhabilitation, il y a pas mal de temps, où il y avait une ambiance assez folle aux fermetures à chaque fois, où on pouvait même, parfois, si le cast member était assez sympa, refaire un tour en restant dans le train. Enfin, il y a vraiment. C'est vraiment hallucinant.
Ouais, non, mais c'est plutôt sympa. Et t'as les castes, effectivement, qui aiment bien mettre un peu d'ambiance,
Il y a
parfois même
toujours
en
un
pleine
oui.
journée. L'autre jour, on a eu un clapping, quoi. C'était un
Oui,
samedi, tu
voilà.
vois.
Mais c'est un peu de ça dont je parle justement de cette ambiance-là.
Et ouais, c'est ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a une certaine euphorie autour de cette attraction. Enfin, t'es content, c'est pareil. En plus, pour un coaster, c'est assez long, ça dure plus de 3 minutes.
Ouais. Il me semble dans les 4 minutes, ouais, c'est ça.
C'est très long. Mais après, à la fois, elle est tellement excellente qu'elle paraît courte. Enfin, je sais que quand je la finis, j'ai ah mince déjà, tu vois.
Ouais,
Alors que
c'est.
finalement, c'est long. Et ouais, je trouve que encore une fois, tu t'ennuies pas une seconde dans cette attraction. Elle est absolument splendide, et notamment depuis la réhabilitation, encore une fois, où bon, il y a eu des problèmes avec cette réhabilitation, on va pas se le cacher, mais.
Non, mais rien qu'au niveau des couleurs de la montagne qui ressortent beaucoup mieux qu'avant.
La végétation qui a été
Ouais,
rajoutée,
ouais,
il n'y
ouais,
en avait
ouais.
plus, ou presque pas, ou elle était invisible, quoi, ou
Quand
je
je
sais
regarde
pas.
mes anciennes photos et que je compare avec maintenant, c'est vrai que je me dis, ah oui, en effet, il y en avait vraiment besoin, quoi.
La végétation, même les petits effets de lumière, tout ça, dans la première montée notamment,
Ouais.
ils sont très très cool. L'animatronique qui bouge, la fumée la deuxième montée, enfin. Ouais, non, c'est excellent, quoi.
Puis aussi ce côté un peu assez authentique avec de vrais accessoires d'époque, etc. Enfin, on se sent vraiment immergé en fait, et ça c'est valable pour tout Frontierland en général, au Far West quoi, et ça je trouve ça vraiment impressionnant.
Ouais, tout à fait, ouais. C'est un land qui marche vraiment extrêmement bien sur un grand espace. Et je trouve que c'est vraiment
Ouais.
exceptionnel à ce niveau-là. Et il fait finalement, c'est ce que je me faisais la réflexion il n'y a pas très longtemps, c'est que il fait un peu le contraire d'Adventureland. Adventureland, il marche et il t'immerge en plein de petits espaces très très fermés finalement, et très thématisés, mais marqués
C'est
sur
vrai qu'on a un
des
peu la
endroits
zone
différents.
Afrique, la zone pirate, la zone un peu plus jungle.
Tout à fait. Frontierland, c'est l'inverse en fait, où t'as cette progression du Thunder Mesa un peu riche aux endroits un peu plus reculés, un peu moins bénie par la ruée vers l'or finalement. Et ça marche extrêmement bien, et Big Thunder justement en cartonne là-dessus, parce que tu as justement cette vue sur tout l'ensemble. Et ouais, du coup, en plus, oui, comme tu le dis, tous les accessoires authentiques, mais du début à la fin, quoi. La file d'attente, elle est excellente aussi. Elle peut paraître plus obscure, notamment, je pense, pour des enfants qui vont pas forcément comprendre tout.
Mais, ouais, c'est vrai.
Mais c'est vraiment extrêmement riche, encore une fois, en props qui tournent, qui bougent, qui font de la fumée. Enfin, il y a de tout, quoi.
Puis au niveau du son, j'y repense maintenant, c'est assez dingue, puisque la dernière fois que j'y suis allé, j'étais au niveau du Disney Village, au niveau du Sequoia. Et depuis le Sequoia, j'entendais Big Thunder Mountain, en fait. Donc c'est...
Ah oui,
c'est quand même assez fou le bruit que ça génère dans tout le land, en fait.
Et c'était les sons vraiment ajoutés sur le train, ou juste le son de la montée? Non, je pense que c'est...
Non, c'est vraiment le son. Je sais pas si tu vois, quand on arrive au niveau de la photo.
Oui.
Il y a le train qui fait ce son vraiment de un peu... je sais pas comment dire. Tchou, 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 tchou,
oui,
voilà,
c'est tout à fait ce que tu veux dire. Oui, alors effectivement, complètement. Oui, c'est des sons rajoutés en haut-parleur et qui...
Oui, voilà.
C'est ce qu'on disait, quoi. Justement, là, pour donner de la vie au truc. C'est vrai que c'est bruyant et c'est assez cool, quoi. Finalement, ça rappelle un petit peu ce qui se faisait à l'époque de Space Mountain avec les... Là, je t'avoue que je m'en souviens pas, mais il me semble que t'avais au moins dans le land, dans Discovery Land, le son de chaque lancement de Space Mountain qui reprenait un peu. Ça faisait un pouf à chaque lancement. Et il me semble que pendant un moment, mais peut-être pas très longtemps, ça a été fait dans tout le parc.
Dans tout le parc, ok.
Il me semble, oui. Et si tu réfléchis, en plus, si tu as lu un peu De la Terre à la Lune, ça a du sens, puisque la détonation est censée être énorme au départ du boulet. Et je trouve que ça rappelle un petit peu cette force qu'a Disney, un peu, de mettre de l'ambiance sonore qui lie tout... Tout son monde ensemble, tout.
Le son, c'est un des éléments, j'ai envie de dire, des plus importants des parcs, quoi.
Tout à fait.
Ok, ben, je crois qu'on a un peu fait le tour. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, si t'as quelque chose à ajouter ou...
Non, bah, pas spécialement. Enfin, du coup, ce que m'a fait un petit peu réfléchir sur le top, c'est finalement, je me suis rendu compte que, au-delà des détails, au-delà des petites choses, des trucs jolis ou quoi, ce qui me marche le plus pour moi, c'est l'immersion. Ensemble, tu vois.
C'est ce qu'il y a un peu au final, mes deux passions, du coup, le cinéma et Disneyland. Et si je devais tenir un point commun qui est entre ces deux passions, c'est vraiment le fait d'être immergé dans des univers, en fait. Et, ouais, c'est vraiment ce que je retiens, moi, pour ce qui est de Disneyland.
Oh, tu te crois totalement ailleurs parce que l'univers est tellement crédible.
Je pense que c'est une bonne façon de conclure.
Ça marche super bien.
Ben, du coup, merci à toi, Épicurien, d'être venu pour ce dossier du mois, hein, sur le top 5 de nos attractions préférées.
Ben, merci à toi de m'avoir invité, surtout. C'était un plaisir.
N'hésitez pas, du coup, à aller faire un tour au niveau du podcast Rien que d'y penser, car en ce moment, il y en a à peu près toutes les semaines, hein, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, c'est un peu la folie.
C'est... Ouais.
Marvel,
Fanny. Ah ben, niveau annonce en ce moment, ouais. Hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la Fan Days, d'ailleurs, même si j'y serai pas. Ça a l'air quand même d'être assez une soirée assez impressionnante, hein, malgré le prix. Hein, on va pas revenir là-dessus, mais bon.
Moi, je suis assez tenté de voir un petit peu ce qui va se dire, notamment au niveau de Phantom Manor. Dans
oui, voilà. Imagineers. Surtout qu'on va en savoir un peu plus sur Phantom Manor, ouais.
Okay. C'est impatient.
Merci de nous avoir écoutés pour ce troisième épisode de DLP Podcast, qui est donc le premier à être hébergé par Daily Disneyland. Nous, on se retrouve du coup normalement à la fin du mois de juin, si je ne suis pas trop pris par les révisions. Ah là là. Merci d'avoir écouté et à bientôt.
Au revoir.